à nouveau avec vous ce mois-ci. Alors j'ai entendu tout à l'heure que les enfants partaient avec les papillons, les colombes et les aigles, c'est bien ça ? Alors je suis désolé pour vous que vous restiez avec le vieux corbeau, tout ce qui vous reste. Néanmoins, c'est quand même un vieux corbeau qui apportait à Élie au désert le pain et l'eau dont il avait besoin. Alors si c'est là la tâche qui m'est donnée, je m'en réjouis. Voilà, nous voulons retrouver la parole du Seigneur. Et il y a dans la Bible, qui est un gros livre, hein, d'accord, c'est un très gros livre, la Bible, il y a des terra incognita, vous savez, des terres inconnues, des terres jamais visitées. Et dans ce parcours, dans les psaumes que je vous ai proposé, c'était au mois de septembre maintenant, hein, j'aimerais aujourd'hui vous conduire vers un psaume dont probablement beaucoup d'entre vous ne savent même pas qu'il existe. C'est-à-dire quand on commence à lire les premiers versets, hop, on arrête et on saute à un autre. C'est effectivement vers le psaume le plus déconcertant des Écritures. Et quand je dis déconcertant, le terme n'est pas tout à fait juste. C'est un psaume dans lequel s'expriment des pensées dont nous espérons que jamais elles n'auront à venir sur nos lèvres. Et pourtant, c'est un psaume qui est là dans la Bible. Il est une des prières du peuple de Dieu. Je vous rappelle que ce que nous appelons, nous, le livre des psaumes, hein, le psaume, c'est un terme qui vient du grec, mais les enfants d'Abraham, les juifs, parlant du livre des psaumes, l'appellent « livre des louanges ». C'est-à-dire que chaque psaume, il y en a 150, chaque psaume est perçu comme étant une louange. Et le psaume que nous allons lire en Israël appartient à la tradition des louanges. Voici le psaume 88. C'est attribué au registre des fils de Corée, du chef de chœur, pour entonner sur la flûte, on n'est pas très très sûr de la traduction là, poème de Héman l'Ezraïte. Seigneur, Dieu de mon salut, je crie le jour et pendant la nuit devant toi, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Tends l'oreille vers mon cri, car je suis rassasié de maux et ma vie touche au séjour des morts. On me compte parmi ceux qui descendent dans le gouffre. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont transpercés et couchés dans une tombe, à ceux dont tu n'as plus le souvenir, qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans un gouffre sans fond, dans les ténèbres, dans les profondeurs. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'affliges de tous tes flots. Tu as éloigné de moi ceux que je connais. Tu as fait de moi une abomination pour eux. Je suis enfermé. Je ne peux plus sortir. Mon œil s'éteint d'affliction. Je t'invoque sans cesse, Seigneur. Je tends les mains vers toi. Est-ce pour les morts que tu ferais des choses étonnantes? Les ombres se lèveraient-elles pour te célébrer? Dira-t-on ta fidélité dans la tombe, ta constance dans le monde des disparus? Tes actes étonnants sont-ils connus dans les ténèbres? Et ta justice au pays de l'oubli? Quant à moi, c'est toi, Seigneur, que j'ai appelé au secours. Au matin, ma prière va au-devant de toi. Pourquoi, Seigneur, me repousses-tu? Te détournes-tu de moi? Je suis pauvre et moribond. Depuis ma jeunesse, je suis chargé de tes terreurs. Je suis désemparé. Les ardeurs de ta colère passent sur moi. Tes effrois me réduisent au silence. Ils m'entourent sans cesse comme des eaux. Tous ensemble, ils m'encerclent. Tu as éloigné de moi amis et compagnons. Ceux que je connais ne sont que ténèbres. Que fait ce psaume dans notre Bible ? Est-il bien convenable de le faire entendre au jour de notre culte ? Qui n'a jamais prononcé une telle louange ? Quand vous êtes invité à faire monter vers Dieu votre louange, vous viendrait-il à l'idée de vous exprimer ainsi ? Ce psaume, cette prière, elle fait partie de ce qu'on appelle les prières de supplication. En vérité, c'est un cri de détresse, mais c'est un cri de détresse d'un croyant vers son Dieu. Ne nous y trompons pas, hein. Ce n'est pas le cri d'un non-croyant qui, plongé dans des épreuves tragiques, s'adresse à un Dieu au cas où il y aurait un Dieu. Ça, c'est la prière du non-croyant, cette espèce de « au secours ». Si Dieu existe, entends-moi. Pas du tout. Il s'agit bien là de la prière d'un croyant. « Seigneur, mon Dieu, Dieu de mon salut, Seigneur, Dieu sauveur, j'ai crié vers toi. » Il s'agit bien de la supplication d'un homme qui connaît Dieu, qui dit que ce Dieu est son Dieu, qui plus est son Dieu sauveur. Alors, vous avez dans les psaumes, allez vers les psaumes 10, 14, d'autres psaumes qui évoquent l'impie, le fou, qui affirme « il n'y a pas de Dieu ». Mais ce n'est pas du tout le registre de ce psaume-là. Cette prière terrible, dramatique, elle est celle d'un croyant en profond désarroi, d'un croyant écrasé d'angoisse et de peur, éprouvant, alors à tort ou à raison, mais éprouvant l'éloignement de Dieu. Je t'ai appelé tous les jours. Pourquoi me rejeter, me cacher ton visage ? Silence de Dieu. En suppliant est né le sentiment que Dieu même non seulement ne l'entend pas, mais que Dieu ne veut pas l'entendre, que Dieu se détourne de lui. Alors il crie sa détresse, il crie son incompréhension. Mais vous avez lu le livre de Job ? On retrouve là le livre de Job. Ces ténèbres, cette détresse, c'est une part importante des Écritures qu'on a tendance à cacher. On n'aime pas ça. On aime les paroles qui sont faciles à entendre, bonnes à entendre et qui sont vraies. Mais il y a aussi tout le témoignage rendu à la détresse de l'homme. Il est comme déjà dans la tombe. Ses jours n'ont plus de sens. Feras-tu un miracle pour les morts ? Les trépassés se lèveront-ils pour te célébrer ? Alors, il y a dans les livres des psaumes, d'autres psaumes, psaume 10, psaume 13, un certain nombre, où sont exprimées cette détresse de l'homme. Mais ces autres psaumes, ils se terminent toujours sur une parole d'espérance, une parole de délivrance. En général, à la fin, il y a « Ô Dieu, tu m'as délivré. Ô Dieu, tu m'as apporté la paix. » Là, dans l'écriture même du psaume, le dernier mot, alors c'est vrai en hébreu, c'est vrai dans nos traductions, le dernier mot, c'est le mot « ténèbres », verset 19. Le psaume se termine sur le mot « ténèbres ». Et vous savez, dans la manière d'écrire les psaumes, la place de certains mots est fondamentale. « Ténèbres », dernier mot. « Ténèbres de l'abîme originel », vous vous rappelez le récit de la Genèse, avant que la lumière soit, avant que le monde soit vivifié, ténèbres, absence absolue de lumière, absence d'intelligence, de raison, de sens, absence de vie, le néant. D'autres psaumes évoquent la nuit. Mais là, ce n'est pas la nuit, c'est bien les ténèbres. Parce que la nuit porte toujours l'attente de l'aube. Une nuit peut être longue, mais néanmoins, le jour vient. Au psaume 88, aucune aube ne se pointe. J'aimerais vous rappeler que lorsque notre Seigneur a été crucifié sur la croix, il se fit sur la terre des ténèbres pendant 3 heures. Ce n'est pas un petit détail anecdotique, ça dit quelque chose de la tragédie du monde et de la tragédie de la mort du Seigneur, j'y reviendrai. Alors dans son infinie détresse, le voici seul. On sait très bien que dans les épreuves, c'est peut-être même une caractéristique de ce qu'on peut appeler épreuve véritable dans la vie, on a un terrible sentiment de solitude. Tu as éloigné de moi, compagnon et ami, pour intime j'ai les ténèbres. Tu as éloigné de moi mes intimes, à leurs yeux, tu as fait de moi une horreur, enfermé, je n'ai pas d'issue. On le sait, frères et sœurs, c'est pas notre gloire du tout, mais c'est ainsi. Quand une personne s'enfonce dans une détresse totale, dans une détresse sans fin, quand une personne est accablée par une série de tragédies qui la détruisent, il est difficile à l'amitié de demeurer fidèle. Et on arrive à un point où la tragédie de l'autre me fait peur, elle m'effraie. Ces questions, j'en ai peur. Vous savez, le pasteur que je suis, qui a été un certain nombre de fois allé voir des parents dont le bébé était mort, dont l'enfant était mort dans un accident, croyez-moi, quand vous allez les voir, vous êtes mort de peur à l'idée des questions qu'ils vont vous poser. Parce que vous savez que ces questions, vous ne pourrez pas répondre. Que vos réponses seraient superficielles, qu'elles seraient des mots qui n'auraient aucun sens. Vous êtes mort de trouille. Alors petit à petit, il y a la tentation de s'éloigner, de moins prendre de nouvelles. Aujourd'hui, on envoie quelques SMS, une manière de dire « je t'oublie pas », mais quand même, c'est à distance, le SMS. Puis, voilà, les visites s'éloignent, la solitude, la détresse, la vraie détresse, celle qui mérite ce nom de tragédie, très souvent, elle produit la solitude. Alors, on peut s'interroger, mais de qui ce psaume peut-il être la prière ? Alors, j'aimerais lire juste quelques versets, prendre un exemple qui est dans les Écritures elles-mêmes. Au tout début du livre de Samuel, il y a un premier chapitre qui est un peu étonnant. Alors, ceux qui connaissent un peu la Bible connaissent le cantique d'Anne, mère de Samuel, hein, ce cantique à la naissance de Samuel quand elle l'amène au temple pour le consacrer. Mais on est moins attentif au tout premier chapitre et j'aimerais en lire quelques-uns, quelques versets. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophrim, de la région montagneuse d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Yéronam, d'Eliou, de Tohu, de Tsouf, qui avait 2 femmes. On est dans les temps bien anciens. L'une était Anne, et le nom de la seconde, Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant le Seigneur des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils, Ophni et Phinéas, 2 fils d'Élie, prêtres du Seigneur. On sait par la suite que ça va devenir des petits voyous, ces 2, mais ça, je vous laisse lire la suite un jour. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous les fils et les filles de celle-ci. Mais il donnait à Anne une part d'honneur, car il aimait Anne, bien que le Seigneur l'eût rendue stérile. Sa rivale, Pénina, ne cessait de la contrarier, parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. D'année en année, il faisait ainsi, et chaque fois qu'Anne montait à la maison du Seigneur, Pénina la contrariait de la même manière. Alors, Anne pleurait. Elle ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit, « Mais Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il si triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Après qu'ils eurent mangé et bu à Silo, donc au sanctuaire, Anne se leva. Élie, le prêtre, était assis sur son siège près du montant de la porte du temple du Seigneur. Anne, amère, se mit à prier le Seigneur et pleurer abondamment. Elle fit un vœu en disant « Seigneur des armées, si tu daignes regarder mon affliction, si tu te souviens de moi et ne m'oublies pas, si tu me donnes une descendance à moi qui suis ta servante, je donnerai au Seigneur pour tous les jours de ma vie cet enfant, le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme sa prière amère se prolongeait devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, « Jusqu'à quand resteras-tu là à cuver ton vin ? Va ailleurs cuver ton vin. » Anne répondit, « Mon Seigneur, je ne suis pas une femme entêtée, je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée, je me répandais devant le Seigneur, ne me prends pas, moi ta servante, pour une femme sans morale, car c'est de l'excès de ma douleur et de ma contrariété que j'ai parlé jusqu'ici. » Et il répondit, « Va en paix, que le Seigneur d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Arrêtez la lecture, vous pouvez lire la suite du texte, bien sûr. Vous voyez, cette femme qui vit une stérilité qui, à l'époque, était alors quelque chose d'absolument épouvantable, qui plus est, voit la seconde épouse de son mari avoir des enfants en abondance. Quoique son mari l'aime particulièrement, à l'évidence, il ne la comprend pas. C'est une femme qui devient, le texte dit, elle devient amère, elle pleure, elle est incontrôlable. Le pasteur, enfin, Élie, le responsable du sanctuaire, lorsqu'il la regarde, il pense qu'elle a bu, qu'elle est ivre. Bien, il me semble que le psaume 88 pourrait, pas le cas, c'est passé après, mais aurait pu être la prière d'Anne, méprisée, jalousée, incomprise de son mari, incomprise de son pasteur. Ça pouvait très bien être la prière de cette femme, celle qui éprouve que Dieu l'a abandonnée, que Dieu l'a rejetée, le texte dit, Dieu l'a rendue stérile. Celle qui éprouve que Dieu ne l'entend pas, lui cache son visage, la prive de la seule bénédiction qui, pour elle, ait quelque valeur. Une supplication, le cri d'une détresse totale. Anne prie en silence, mais sur le fond d'une immense amertume. Frères et sœurs, cette supplication, nous devons apprendre à l'écouter, à l'entendre. Dieu merci, elle n'est peut-être pas celle de quelqu'un ici, peut-être que oui, elle n'est pas l'expérience commune, et nous nous en réjouissons, mais par contre tous, nous avons à apprendre à l'entendre. Il faut que cette supplication, elle touche notre âme. Il faut qu'elle nous émeuve, que nous en éprouvions l'infinie détresse. Parce que c'est alors, et alors seulement, que nous pouvons l'offrir à la prière de celle, de celui que nous accompagnons et auquel nous n'avons plus rien à dire, tant nos mots nous paraissent inadaptés et maladroits. Un de mes amis, aussi retraité aujourd'hui, qui a été toute sa vie aumônier d'hôpitaux, me racontait voilà, longtemps qu'auprès d'un croyant hospitalisé dont les jours étaient comptés, il avait prié ce psaume. Et ce mourant, alors qu'il est mort quelque peu de temps après, ce mourant l'a remercié. Il l'a remercié en lui disant, tu sais, pasteur, je crois que je tutoyais, jusqu'à là, il y a des gens qui sont venus me voir, et ils m'ont lu des jolis textes de l'Écriture, des textes pleins de promesses. Mais ces textes, ils coulaient sur moi comme l'eau coule sur le caillou. Ils n'étaient pas les textes de ma détresse, ils n'étaient pas les textes de mon état. Et tu as mis dans ma bouche les mots que je voulais dire à Dieu. Tu m'as autorisé, tu m'as permis de dire à Dieu ce que j'éprouvais vraiment. Proposer cette prière, voire même parfois oser la prier au nom de son frère ou de sa sœur qui est dans une extrême détresse. Écoutez ce cri. Vous avez conscience, vous l'avez entendu, vous pouvez le relire, que vous accédez à, à une intimité. Il y a quelque chose d'extrêmement intime dans cette parole. On a presque envie de dire, mais je ne peux pas entendre ça. On entend le battement affolé d'un cœur en souffrance. Alors, est-ce que dans ce cri, dans ce psaume effrayant, est-ce que toi, tu entends la foi ? Parce que c'est un psaume de foi. Même si cela n'apparaît pas si évident que cela, la foi, c'est la marque de toute supplication. Ce n'est pas la foi qui prétend tout expliquer, ce n'est pas la foi qui prétend avoir réponse à tout. Cette foi, vous savez, qui, logiquement, veut tout expliquer, tout apaiser. Ici, la foi, elle est réduite à sa forme, c'est-à-dire presque la plus intense. La foi qui s'accroche à Dieu. Elle s'accroche à Dieu. C'est une foi sans masque, sans phare. C'est une foi sans les... Excusez-moi de le dire comme ça, ne le prenez pas mal, mais sans les formules évangéliques pré-remplies, sans les petits textes qu'on a, qu'on va sortir rapidement dès que quelqu'un est en souffrance, parce que c'est aussi une manière de se mettre à distance de sa souffrance. Tu souffres ? Alors, tiens, voilà. Là, il faut accepter la détresse. Pensez aux évangiles. Relisez, hein, c'est très évident dans les évangiles. Bien des pauvres, des malades, des méprisés, lorsqu'ils s'adressent à Dieu, le texte de l'évangile dit qu'ils le suppliaient en criant vers lui. Ils sont pas en train de dire, Seigneur, aurais-tu la gentillesse de vouloir t'approcher de moi ? Je sais que tu es capable de... C'est pas du tout ça, c'est le cri. Les pauvres qui s'adressent à Dieu crient à lui. Tout ce qui reste, c'est la foi de celui qui crie. Ce refus même de renoncer à crier. C'est même plus des paroles structurées, c'est un cri. Les esclaves israélites en Égypte, le texte dit qu'ils gémissaient et ils criaient. Il dit aussi que Dieu entendit leurs plaintes. Et cette foi, là, dans le psaume, elle ne tient plus qu'à un seul mot, mais qui fait la différence, Seigneur, Dieu sauveur. Je ne comprends rien à ce que tu fais. Je n'accepte pas de vivre ce que je vis, mais tu es néanmoins le Dieu sauveur. Donc c'est à toi que je m'adresse, c'est vers toi que je crie. Et bien sûr, en lisant ce psaume, il nous faut considérer Jésus lui-même, notre Seigneur. Jésus dont je vous redis, je crois chaque mois, qu'il est lui par excellence l'homme des psaumes. Comprendre un psaume, c'est comprendre d'abord comment Jésus incarne ce psaume. L'homme des psaumes, Jésus, certainement, à Gethsémané, à Golgotha, il a pleuré, il a crié, il a été dans l'angoisse. Souvenez-vous de ce texte qui nous dit que après ce temps d'angoisse, il avait comme du sang qui perlait avec la sueur sur son front. Et souvenez-vous qu'à sa mort, lui aussi a poussé un cri sur la croix. Il est lui l'homme qui a profondément vécu les paroles de ce psaume, les pensées de ce psaume. Lui, notre Seigneur, qui ne juge pas les êtres en détresse. Lui qui n'a jamais fui celui ou celle qui est dans la souffrance. Lui qui est, je rappelle ce qu'écrit l'Épître aux Hébreux, celui qui a éprouvé tout ce que nous éprouvons sans jamais pécher. Il est lui, je voudrais le redire, en premier, celui qui a prié ce psaume, celui qui a vécu ce psaume. Et tout ce psaume, eh ben, il est un peu résumé dans la parole du psaume 22, parole que Jésus prie sur la croix. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'ai connu dans mon service pastoral quelques hommes, quelques femmes qui étaient en droit de crier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je pense en particulier à une femme dont la vie était faite de détresse. Je ne vous raconte pas sa vie, c'était absolument impensable. Et qui avait la générosité de me servir de secrétaire, parce que je ne suis pas très doué pour l'administratif. Et quand elle sortait du travail, dans la semaine, elle venait. Et elle faisait un peu de courrier, un peu de rangement. Enfin, voilà, faire une secrétaire en quelques heures. Puis nous avions, c'était à Amiens à l'époque, un vieux téléphone, est tellement vieux qu'il avait perdu ses touches. Donc, pour téléphoner, il fallait mettre le doigt dans le trou, puis appuyer au fond, là, se demandant toujours si on allait s'électrocuter. Et un jour, cette femme dit « j'en ai marre de ce téléphone ». Elle est partie à Auchan, qui était à quelques centaines de mètres. Elle est revenue et elle m'a amené un beau téléphone dans la boîte. Elle est rentrée chez elle. Moi, j'ai déballé le téléphone, je l'ai branché, tout fier d'avoir un nouveau téléphone. Et une demi-heure après, le téléphone a sonné, c'était elle. Elle venait d'apprendre que son fils, qui avait une trentaine d'années, était malade du sida. C'était tout à fait au début de l'épidémie de sida. Donc, il allait mourir. Et ce fils est revenu habiter chez sa mère. Elle avait un amour fou de ce fils. Et ce fils, et j'en suis le témoin, j'ai été témoin de cela directement, il a tout fait pour détruire sa mère. Il a tout fait pour la détruire. Il lui a interdit d'être présent à ses obsèques. Il avait été incinéré, il avait demandé à sa sœur, avec qui il était par ailleurs en mauvaise relation, mais de ne jamais dire à sa mère où seraient ses cendres. Il avait une attitude qui détruisait sa mère, et on ne comprenait pas, parce qu'en même temps, il l'aimait. Enfin, je me suis dit, mais cette femme, elle va exploser, c'est pas possible. Elle est abandonnée de Dieu, c'est la détresse absolue. Alors, il se trouve qu'une nuit, j'ai été réveillé. J'ai été réveillé parce que je crois être une espèce de révélation. Ça m'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé cette fois-ci, où j'ai eu cette conviction que je crois venir de Dieu, que la méchanceté de ce fils, une méchanceté destructrice, était en fait une espèce d'amour maladif. Il ne voulait pas que sa mère souffre de sa mort. Donc, pour que pas qu'elle ne souffre de sa mort, il allait faire que sa mort serait pour sa mère une délivrance. Alors, vous imaginez ce que peut y vivre une mère qui est dans cette situation-là ? Moi, j'ai toujours cru qu'elle allait abandonner la foi. Il n'était pas possible qu'elle garde sa confiance en Dieu devant des épreuves, et j'en passe, et d'autres. Et pourtant, elle marche toujours avec le Seigneur. Elle fait partie de ces gens que j'ai connus, dont la foi n'a jamais été aussi vive qu'au moment où elle a crié à Dieu. C'était la prière, le cri le plus personnel, le plus intense, le plus profond, le plus vital. Voilà, frères et sœurs, l'Église lit ce psaume, et l'Église, l'assemblée que vous êtes, est compassion. L'Église a vocation, en son Seigneur, d'être un lieu de compassion, c'est-à-dire un lieu de persévérance en fraternité. Un lieu d'esprit qui nous libère de nos jugements sur ceux qui traversent des situations tragiques. Un esprit qui nous délivre des tentatives d'explications vaines par lesquelles on ne fait que fuir, ou des soupçons. Parce que quelquefois, il y a le soupçon qui s'installe. S'il lui arrive ceci, s'il lui arrive cela, c'est, disait Élie, qu'elle a trop bu. Ou c'est qu'il y a une raison cachée, mais quelque chose. Ce psaume, il balaye nos petites pirouettes évangéliques, vous savez, ces paroles un peu slogans. Alors, je le dis parce que j'en suis coupable, moi, le premier, n'allez pas penser que... Non, je sais ce que c'est que les petites paroles. Courage, le Seigneur est bon. Ben oui, c'est vrai, bien sûr. Sauf que la personne, elle n'est pas du tout dans cette situation de là. C'est pas ça qu'elle a besoin de dire à Dieu. Elle a besoin de découvrir à Dieu qu'elle doit être vraie devant lui. Et qu'à un certain moment, être vrai devant Dieu, c'est dire les pensées qui nous habitent, dire les souffrances, les détresses et les inquiétudes. Car en vérité, toi, mon frère, toi, ma sœur, dans ta détresse à vivre, ben, étrangement, tu sais mieux que moi que le Seigneur est bon. Et c'est parce que profondément tu le sais que tu ne cesses pas de crier. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a que les vivants qui crient. Il n'y a que les vivants qui parlent à Dieu, face à face, d'une façon forte. Ce cri, c'est une autre manière de dire cette parole de l'Évangile, « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon doute, viens au secours de mon doute. » Pour saisir comme une délivrance, comme un apaisement, l'infinie bonne nouvelle qu'est la résurrection. Je crois qu'il faut avoir ressenti le froid glaçant des ténèbres. Quel sens on peut avoir de la résurrection ? Comment peut-on éprouver l'extraordinaire bonne nouvelle de la résurrection si on n'a jamais eu peur, si on n'a jamais été en détresse, si la mort n'a jamais été vraiment à côté de nous, si on ne l'a jamais vue et éprouvée au travers de celui ou de celle que l'on aime ? Écoutez le verset 4 de ce psaume. J'ai frôlé les enfers, il a frôlé les enfers, il a été compté parmi les moribonds, comme un homme fini, reclus parmi les morts, comme les victimes couchées dans la tombe. Quand on éprouve cette détresse profonde, alors oui, le message de la résurrection devient un message extraordinaire. Ces cris de détresse hurlés vers Dieu, c'est qui pourrait être, je le répète, la prière d'Anne chargée d'amertume. En fait, ce sont des marques d'une sincérité devant Dieu, d'une vérité devant Dieu. Vous savez, étrangement, on peut mentir, en général c'est mentir d'ailleurs à soi-même, avec des rires et des sourires. Il y a des sourires qui sont mensonges. Mais celui qui prie une telle prière ne ment jamais. Cette prière, elle ne peut exister que dans la vérité d'une relation à Dieu, d'une relation authentique. Nos sourires peuvent être trompeurs, jamais nos larmes. Ce croyant persiste, et dans le psaume même, aucune réponse. Jamais il ne nie Dieu, jamais il ne récuse Dieu. Au contraire, ce silence, on a l'impression qu'il le porte à encore davantage de cris, à encore davantage d'attentes. Et là, j'aimerais que vous vous souveniez de ce qu'écrit Paul aux Romains, c'est au chapitre 5 de l'Épître aux Romains, lorsqu'il évoque la détresse qui produit la persévérance. C'est la détresse qui produit la persévérance. Ce n'est pas la tranquillité. La détresse produit la persévérance. Et la persévérance, ajoute-t-il, produit la fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée, oui, l'espérance. On aimerait qu'il y ait des raccourcis. On aimerait passer tout de suite de l'un à l'autre. Il n'y en a pas. Frères et sœurs, ce psaume, il me parle, il nous parle de Jésus dans sa passion, dans son agonie, dans sa mort. Ce psaume, il me parle d'âne. Ce psaume, il me parle d'hommes et de femmes que j'ai accompagnés pendant 40 ans dans mon ministère. Ce psaume, c'est le tien. Il est à toi, il est pour toi, il sera ta prière. Toi, mon frère, toi, ma sœur, dans ta détresse. C'est le psaume de nos frères juifs à la Shoah. Comment prier Dieu ? C'est une des grandes questions qu'Israël a été confronté après la Shoah. Comment espérer ? Comment croire ? Comment prier ? Qu'attendre de Dieu quand 5 millions de personnes ont été détruites ? C'est le psaume aujourd'hui de tous ces petits peuples fragiles de la terre, tous ces petits peuples sur lesquels semble s'acharner la guerre, la politique, la faim, la maladie, l'exploitation. Tous ces peuples dont on en parlait dans les médias où il y a souvent beaucoup de chrétiens, cette prière, elle est pour eux aussi. C'est que la foi ne concerne pas simplement les bons moments de la vie, mais la foi, elle est essentielle dans les moments les plus incompréhensibles aussi. Je vais juste vous rappeler le dernier cri de la Bible, qui est un cri dont le texte dit qu'il est très puissant. C'est le cri des martyrs, c'est-à-dire des témoins du Christ, des disciples de Jésus-Christ qui sont morts à cause de leur foi. Et dans le livre de l'Apocalypse, ils sont sous l'autel de Dieu. Symboliquement, l'autel, A-U-T-E-L, hein, pas le, voilà, l'autel. Et ces martyrs sous l'autel, ils ont ce cri « Jusqu'à quand ?» C'est une expression qu'on a dans les psaumes à plusieurs reprises. « Jusqu'à quand, Maître Saint et Véritable ?» Tarderas-tu à nous faire justice. Voyez le chapitre 6 de l'Apocalypse. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne, pour le moins, de devenir les uns pour les autres des compagnons d'épreuve fidèles. Qu'il nous donne, pour le moins, de ne pas avoir peur de la détresse et de l'angoisse de nos frères et sœurs à côté de nous. Qu'il nous donne, si le temps vient, cette audace d'une foi véritable qui ose dire à Dieu les choses vraies, profondes de notre expérience humaine. Qu'il nous garde ainsi jusqu'au jour où sa lumière chasse toutes ténèbres, jusqu'au jour où se manifeste toute justice. Cela puisse nous aider à être les uns pour les autres de meilleurs frères et sœurs et ensemble de meilleurs enfants du Seigneur. Amen. Je vous invite à prier.